France 2 1.
h 05, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Ceux qui trouvent que réentendre cette chanson est un supplice, la bonne nouvelle, c'est que je vous dirais, d'ici la fin de la semaine au plus tard, pas mal sûr que nous serons collectivement passés à autre chose. Tout ce que ça prend, c'est une défaite du Canadien, et plus jamais on va la réentendre.
En tout cas dans le retour.
Là. Ouais, les autres, ils feront ce qu'ils veulent. Mais moi, à partir du moment où le parcours du CH est jalonné d'une défaite, le curse est brisé et moi, je m'en occupe plus. Donc, d'ici là, il faut être un petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça, des believers. Et ce soir, match numéro 2 entre le Canadien et le Lightning. On a 4 degrés sous le soleil présentement à Québec. Le maximum est accessible. 1 degré plus loin à 5. Ce soir et cette nuit, c'est un ennuagement avec un minimum de moins 1 degré. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ça se dégage en matinée demain avec un maximum de 11 degrés. Jeudi, ça a été revu à la baisse un peu, nuageux. 40 % de probabilité d'averse pour Québec avec un maximum de 6 degrés. Vendredi, alternance soleil-nuage, maximum de 9. En contrepartie, c'est la fin de semaine qui va être belle. Samedi 25 avril, soleil 13 degrés. Dimanche le 26, soleil et un maximum de 14. Pour nous rejoindre par texto, d'ailleurs, quelques supplications d'arrêter la chanson sont déjà rentrées au poste.
Mais il faut ce qu'il faut, là.
Il faut ce qu'il faut. Il faut souffrir pour être beau. 418-971-1021.
Il faut souffrir pour gagner, peut-être.
Un petit peu des
peut-être
deux.
Pour être beau.
Ah, les beaux, ils gagnent tout le temps. 418-780-1021 au téléphone.
Ben,
vous le savez, là, la game est truquée contre nous autres. Le messenger de Boulevard 102.1 pour nous écrire directement. On va parler à Mathias Turcotte cet après-midi. Notre journaliste sur la route, vous pouvez le rejoindre à l'adresse citoyen@blvd.fm et également pour nous écouter. Je vous le rappelle, on a l'application Boulevard qui est disponible, qui enlève tout ce qui griche. Par contre, Max Larouche fausse quand même sur l'application.
Moi, il n'y a pas une mise à jour de l'app pour
Non.
C'est pas l'antenne non plus, là, c'est vraiment lui. Ouais.
C'est là qu'on s'ennuie de l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, l'application Boulevard, c'est facile à télécharger, c'est gratuit. Vous avez le blvd.fm. On a également une chaîne YouTube où on retrouve, entre autres choses, des entrevues, des extraits d'émissions, toutes les pit stops qu'on fait le matin avec la gang de Marceau et également les podcasts. Je vous rappelle qu'hier soir, à 19h, c'était la grande première du podcast du Festival d'été où on a fait un survol du top 10 des shows les plus marquants. C'est sûr que quand on se lance là-dedans, c'est toujours un peu subjectif. C'est le journaliste Cédric Bélanger qui est venu nous faire part de son top 10. Je peux pas dire que j'ai fait le saut souvent, là.
Vous étiez en accord beaucoup.
Oui. Puis, tu sais, on a tous nos goûts personnels, mais en même temps, on sait que Metallica a été un grand rendez-vous, la première présence de Metallica au festival d'été. Et on sait que dans 50 ans, on va encore parler du show des Cowboys Fringants.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Le show
c'est
des...
spécial,
ça, là. T'sais, pour un paquet de raisons, c'est un show... En fait, je sais pas s'il compte, parce que techniquement, le festival d'été était fini. On a rallongé, on a fait une prolongation. On est allé en fusillade, ni plus ni moins, pour le festival d'été, pour réussir à faire en sorte que ce show-là se déroule. Et étant donné l'état de santé de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, ben, tout le monde a fait son extra mile. On n'a pas idée. En fait, je pense qu'on l'a réalisé au fil des conversations avec les gens du festival. Mais à l'époque, quand on avait soulevé l'idée, rallongeons ça une journée de plus pour permettre le show des Cowboys Fringants. Je pense que nous autres, on n'avait pas idée de la logistique que
ah,
ça
merde,
impliquait. Tu sais, tous les techniciens de scène, eux autres, ils repartaient ailleurs. Là,
de ça, les fournisseurs,
oui.
La sécurité, il y a bien des affaires. Là.
Beaucoup de bénévolat, puis ça a été un effort corps d'équipe.
Oui, oui, puis il a fallu que la ville embarque aussi dans une certaine mesure. Ça a pris des policiers qui ont travaillé en temps supplémentaire et ainsi de suite, mais je pense que dans le contexte très particulier de ce show-là, tout le monde a fait un effort qu'il n'aurait pas fait sous un autre contexte ou dans un autre contexte. Tout ça pour vous dire que dans le top 3 de Cédric Bélanger, tu avais ce show-là de Metallica au numéro 2 et le show des Cowboys fringants au grand numéro 1 pour entendre les autres puis peut-être comparer vos choix personnels. Véro, ton plus grand show du festival d'été, c'est quoi?
Hey, mon plus grand, genre ever. C'est tough, là.
Ton préféré, là, à vie.
Hey, je pense que mon préféré à vie, ça demeure Gorillaz.
Ah oui?
Parce que c'était tellement champ gauche quand ils sont venus. Il y avait deux chansons qui étaient à peu près connues du grand public. La météo était clémente, fait qu'il y avait beaucoup de monde sur les plaines qui était là par curiosité.
Il a fait le top 5 de Cédric, by the way.
Puis de voir un groupe avec si peu de notoriété à Québec être capable de conquérir une foule et être capable de jouer avec une foule comme s'il était dans le dedans de la main de Damon Albarn. J'ai jamais vécu ça dans ma vie auparavant, puis j'en ai vu des shows. Mais tu sais, j'ai vu des shows souvent où les gens achetaient un billet, ils allaient là, ils étaient conquis, ils savaient à quoi s'attendre. Dans ce cas-ci, c'était une soirée exploratoire. Puis pour moi, ça a été absolument spectaculaire. Mais tu sais, j'en ai plein. Je vais te parler d'Elton John, je vais te parler de Duran Duran.
C'est tough, là. On dirait qu'il y a plein d'affaires qui me viennent en tête.
C'est la première fois que j'ai vu Mio, c'est plein. Tu sais, il y en a eu beaucoup, là.
Moi, je pense que personnellement, le premier Rammstein bat tout.
Ah ouais, c'était tellement grandiose, c'était tellement théâtral.
Oui, oui, oui. Puis je savais que ça allait être big, mais j'avais jamais vu Rammstein de ma vie.
Mais c'est quoi les paramètres de ta question, mettons?
C'est-à-dire?
Ben, c'est émotif.
Si c'est émotif, moi, il y a deux affaires qui me viennent en tête, mais c'est champ gauche, puis je suis sûr que vous n'avez même pas parlé.
Ton show préféré du festival d'été?
Écoute, la première chose qui m'est venue en tête de façon émotive, et même pas pour le band ou la musique, c'est les trois accords à cause du contexte où c'était une grosse pluie, il manquait tellement de monde, c'est plein, mais on était 5-6 000 qui avons vécu un moment ultra spécial où, je veux dire, il y a eu un abandon, ben oui. Un abandon général.
La pluie amène quelque chose. Moi, je l'ai vécu avec Linkin Park où on s'est fait pleuvoir dessus. Il y a le show des Foo Fighters qui a été annulé où on s'est fait pleuvoir dessus.
Alexandra Streliski, c'est quelque chose d'ultra marquant pour moi parce que c'était un essai du Festival d'été de Québec en 2024.
Ça vire en communion.
Mon Dieu! Le silence sur les plaines. Il n'y a pas dû se vendre beaucoup de bière ce soir-là. Le monde n'osait pas bouger.
Il avait peur de décapsuler.
C'était fascinant, c'était spécial. Imagine Dragons avait donné un show extraordinaire aussi. Tu sais, c'était émotif pour mille et une raisons, mais il y a eu des solides coups sur les plaines.
C'était dur. C'est bizarre, hein, parce que pour la plupart des gens, le show le plus marquant des Foo Fighters, c'est celui qui a duré 4 tonnes.
Absolument, j'ai aucun souvenir de l'autre.
Et le show de 4 tonnes, c'est lui aussi que Cédric a placé dans son top 10. Ouais. C'est le show qui a été marquant plus que l'autre. Ils ont joué 2h30 l'autre show, mais c'est pas lui qui a marqué les gens, c'est bizarre.
C'était la deuxième visite seulement des Foo Fighters à Québec. La première, ça avait été faite dans un défunt bar, le Palladium. Puis cette fois-là, on a eu peur que le show ait pas lieu d'abord parce qu'il s'était pété une jambe. Il y avait le trône. Mm-hmm. Il y avait Royal Blood qui a collé la tempête. Ouais. Je pense encore que c'est eux qui ont provoqué tout ça.
Mais ils étaient sur la scène. Ils l'ont vu avant nous autres. Eux autres regardaient du bon bord.
Ils l'ont dit. Ouais. Ils l'ont dit. C'était dans le coin de Beauport puis dans le coin de Charlebourg. On voyait l'orage. Pareil comme le ciel dans Ghostbusters qui était en train de se créer. Mais c'est ça. C'est souvent tout le contexte. Ouais. Qui fait que pour quelqu'un, un show va être unique. Il y a beaucoup de contextes de météo parce que c'est un élément qu'on partage. Mais tu sais, c'est...
Post Malone, ça avait été complètement fou.
Hey, ça m'a jeté à terre. Je comprends que je chantais pas toutes ces paroles, là, mais j'ai rarement vu un gars triper sa vie de même. Dans...
C'est drôle parce que j'étais fâchée sur le moment, étant donné qu'il y avait beaucoup de playback.
C'est fou ce que le temps peut faire. Hein?
Ben, c'est ça j'allais dire. La nostalgie a fait sa job parce que j'en retiens énormément de positifs juste parce qu'un gars content de même d'être là.
En tout cas, c'est cool parce que je vous ai demandé votre show préféré, puis vous êtes rendu à peu près à 12 chacun.
J'ai commencé en 1, c'est de la faute d'Audrey, elle m'a encore saboté.
Le show de Bon Jovi en 2012 était super. J'ai aussi vu Linkin Park en 2008 en scène de 36 semaines de ma fille avec la grosse averse de pluie. Il y a quelqu'un qui nous a texté tantôt pour nous dire, moi, mon show préféré du festival, ça a été Pink.
Ah oui,
qui avait donné un show de haute voltige.
Ben oui, exactement.
Ouais. Quelqu'un, ça c'est Pascal qui dit « Mon Dieu, moi aussi, Rammstein. Meilleur show à vie, celui des fous à la pluie battante. Dave Grohl qui rushait même assis sur une chaise, le pied dans le plâtre. Mm. » L'énergie qu'il y avait dans ces quatre chansons-là, c'était complètement, complètement fou. Quelqu'un qui nous dit « Black Eyed Peas, c'était malade. will.i.am qui fait le DJ, c'était épique. » Fait que tu sais, ça va avec les goûts, les préférences personnelles, évidemment. Puis ça peut aller aussi avec notre état général. Moi, Metallica, j'étais trop chaud.
Hein,
fait que je peux pas le mettre top 1. T'sais.
Le premier show de Metallica.
Hey, mon Dieu, j'étais chaud.
Mais c'est donc
bien
triste.
On avait passé l'après-midi à boire
à
sur Grande Allée au soleil.
Ah,
puis
ouais,
après
hein.
ça, ben, c'était Metallica, fait qu'on a continué.
T'as-tu un regret?
Oui, absolument.
Parce que moi, tu vois, cette situation-là, je l'ai vécue à Benson Boone l'été passé.
T'étais trop chaude?
J'étais trop chaude.
Hein?
Puis je trouve ça tellement triste parce que je peux te dire que je me souviens du spectacle, mais je me souviens en réalité de deux chansons. j'ai eu une grosse jasette à côté des toilettes avec une inconnue qui a duré la moitié du spectacle.
Ben oh, moi, cette jasette de gars chaud-là à Metallica, je l'ai eue avec Daniel Gélinum.
Bon, quand même.
Puis j'ai répété probablement 40 fois « Daniel! » T'auras jamais rien de meilleur que ça.
Et pourtant, t'en souviens
pas.
Il devait-tu avoir hâte que je décolle?
Hey, c'est beau que vous ayez gardé contact depuis.
Ben, le lendemain matin, je l'ai texté.
J'espère.
J'ai dit, Daniel, j'ai dit, excuse-moi, j'étais chaud. Il dit, si tu penses la première fois qu'un gars chaud me parle pendant une demi-heure, pendant le show de sa vie au festival,
il dit,
t'es pas le premier pis t'es pas le dernier.
Hey, mais il était
poli. Je me sentais comme de la merde, ça avait pas de bon sens.
J'ai-tu déjà été chaude au point de pas apprécier un show? Je pense pas, parce que moi, il y a quelque chose
genre
que...
jamais, là!
Sais-tu pourquoi? Les hosties de toilettes chimiques.
Ah, ben ouais.
Je refuse d'aller faire pipi trop souvent. Ça m'écœure, fait que ça limite mes consommations. Puis l'autre affaire, je trouve ça d'une tristesse de voir des gens qui sont pas capables d'apprécier leur spectacle. T'sais, t'as ceux qui se font sortir en civière, t'as ceux qui se font sortir par la sécurité. Moi, il y a des fins de show que j'ai manquées parce que les gens avec qui j'étais étaient trop chauds pour faire le spectacle.
Ah, ça, c'est
dont mon dernier spectacle de Foster the People à Boston.
Oh, nul!
Tu manques les trois dernières tonnes.
T'es allé avec
là.
Qui déjà? Ah oui.
Ah, okay.
Ouais, c'est ça.
Je ne vais pas à beaucoup de shows. Ça fait déjà très longtemps, mais pour moi, c'est Primus sous une petite pluie chaude agréable. En 2008.
Wow.
Ça, c'est Marie-Claude qui nous partage son souvenir. Quelqu'un nous dit le pire show, c'est les Red Hot Chili Peppers. Ouais, il y a beaucoup.
C'est une tristesse, ça. Puis c'est tellement pas un groupe.
Beaucoup de gens qui ont été déçus.
Pour ça devrait pas arriver, ça, avec les Red Hot. D'habitude, ils ont suffisamment d'énergie pour compenser le fait qu'ils ne tenaient pas de voix, par exemple.
Sarah McLaughlin nous dit une auditrice.
C'était magnifique, ça. Et que j'avais aimé ma soirée.
Pas mon meilleur show, mais ma meilleure découverte, ça, c'est l'an passé. Big Flo et Oli. J'avais aucune attente. J'y allais pour mes ados qui voulaient absolument voir ce show, toute une prestation. Il y avait eu un paquet d'invités spéciaux aussi, que je me souviens.
Un qui m'avait surpris l'année passée, c'est Ozier, parce que Ozier avait une toune, Take Me to Church, qui est sortie en 2014.
Ouais.
Et en 2024, il est sorti Too Sweet, qui est comme sa
deuxième
tourne.
Ouais. Ouais.
Puis je me demandais à quel point ça allait pogner. Puis il m'a surpris parce que, le gars a une voix quand même, là, mais les choristes sur le stage, t'sais, le stage était comme couvert de bord en bord, grosse pluie battante, encore une fois, qui amenait un certain charme à la soirée, mais j'ai comme l'impression que chaque édition a ses coups de circuit.
Ah, ouais. C'est sûr.
Même ceux auxquels tu t'attends pas nécessairement.
Tu sais, moi, le show, je sais que c'est rendu un lieu commun, mais effectivement, le soir de Gorillaz, il s'est passé quelque chose sur les plaines d'incompréhensible.
Ouais.
L'amour.
T'as quelle année, ça?
C'était en 2017, je pense. À vérifier, là. Mais tu sais.
Oui, 2017.
L'amour, c'est chimique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans l'amour à deux, là. Mais là, c'était l'amour à plusieurs.
La
chimie entre les gens qui étaient là, qui connaissaient deux tounes, et le band qui était là, qui tripait sa vie, il s'est passé quelque chose de spécial.
Il a transformé les plaines en plancher de danse.
Alors qu'en arrière-scène, les gens se demandaient s'il allait avoir un spectacle, parce que Damon Albarn était tellement chaud qu'il y avait de la misère à tenir debout. Il y avait des inquiétudes réelles, là, parce qu'il y avait eu Stone Temple Pilots une couple d'années d'avant qui avait scrappé
une
belle soirée sur les plaines parce que Scott Whelan était trop magané. Puis on se disait, est-ce que Damon Albarn, le leader de Gorillaz, va nous faire la même chose? Et il est arrivé complètement l'inverse. Puis c'est cruel, hein, parce que prends les Red Hot Chili Peppers. On leur a reproché de pas juste faire des hits le soir des plaines au point où les gars ont été obligés de se parler sur scène et d'ajuster leur setlist. Gorillaz sont arrivés là avec des chansons très, très peu connues. Ils ont gardé les deux tunes qu'on connaissait pour leur appel, puis le monde ont trippé tout le long. Fait que, tu sais, l'énergie, des fois, c'est dur à quantifier, c'est dur à expliquer, mais ceux qui étaient là le soir de Gorillaz sur les plaines le savent. Il s'est passé quelque chose de magique.
Avec la foule,
beaucoup de festivals. Tu sais, ils ont conquis le public une personne à la fois. À l'inverse, c'est Kendrick Lamar qui était venu puis qui avait engueulé la portion des gens dans la zone A parce qu'ils n'embarquaient pas assez.
La pire chose à faire.
Séduis-les.
Organise-toi pour qu'ils bougent.
Parce que, tu sais, je comprends que les gens sont comme, il ne devrait pas y avoir ça, une zone A. Dites-vous qu'au prix qu'ils payent, c'est ce qui permet qu'on ait un festival d'été qui coûte si peu cher.
Puis, il y a du monde qui a le droit de ne pas bouger aussi en regardant le show. Je vais défendre.
Tu lèves la main, toi.
Oui, absolument. On peut regarder, puis on n'est pas tous des danseurs, puis on n'a pas tout le goût de bouger avec nos bras non plus.
C'est à toi qui es sur scène de capter l'attention de la foule. De faire que la foule vit un moment. Puis est absorbé par ce qui se passe. C'est ça, être un artiste. Là.
Je vous parlais de Gorillaz, puis on dirait que l'affaire à laquelle je pense, c'est R. Kelly qui a joué en première de Nickelback en 2024. Je vous en ai parlé la semaine passée avec les nouveautés. Ils ont sorti un album. Mais tu sais, R. Kelly, moi, je connaissais pas. Groupe canadien qui a tellement capté, pour une première partie en passant, ils ont tellement capté les plaines.
Le chanteur est bon pour ça.
Et la connexion avec la foule, le fait d'essayer de parler français, évidemment, c'est toujours un winner. J'avais rarement vu une première partie faire réagir autant au festival.
Un gars comme Talk, avant qu'il soit connu, qui a réussi à conquérir les plaines juste avec son talent puis son énergie. Des histoires de même, il y en a plein. Comparez vos meilleurs souvenirs aux nôtres. Le podcast est maintenant disponible sur nos plateformes. En tout cas, il est là sur la chaîne YouTube. J'ai vérifié ce matin. Donc, c'est l'épisode 2 de la deuxième saison du podcast des grands événements qui est maintenant disponible au blvd.fm sur l'application Boulevard et sur la chaîne YouTube de Boulevard. C'est à écouter pour les mélomanes ou juste ceux qui sont allés au festival une couple de fois puis qui veulent se remémorer quelques souvenirs. C'est le top 10 des shows de Cédric Bélanger qui a pas mal couvert la grosse période du festival d'été. 14h21, on est en train de faire un exercice ridicule, étant donné qu'on sait déjà tout ce qui va arriver. C'est une pièce de théâtre bien répétée, sauf que le script, on l'a depuis à peu près hier soir. On est en pleine assermentation d'un nouveau conseil des ministres, ce qu'on va appeler le cabinet Fréchette.
Oui, un cabinet qui va être en poste pour très peu longtemps parce que, bon, on va recommencer à siéger et on va recommencer à travailler à partir du 5 mai. Je comprends qu'il va se faire du travail en amont, prendre connaissance des dossiers, là. Mais ça va être uniquement pour une courte période jusqu'à la mi-juin. C'est comme l'équivalent d'une prématernelle. C'est un petit peu tout ça, puis on s'en va en élection par la suite. Par contre, on a vu dans les sondages que tout est possible actuellement pour trois partis. Il pourrait y avoir encore une lutte à trois. Est-ce qu'une impression peut être suffisamment forte avec un cabinet des ministres sur une période de 5 semaines? Je vous rappelle que les deux autres chefs de parti n'ont jamais été au pouvoir. Ils n'ont pas présenté de programme. Ils n'ont pas présenté d'équipe ministrable.
Quelqu'un qui dit que c'est un cabinet de camping.
Cabinet de camping, mais on va voir ce que ça donne. On a ramené le poste de vice-premier ministre et c'est Yann Lafrenière qui se retrouve avec cette responsabilité-là, si on ne l'avait pas vu venir.
Pourquoi on y a donné à lui?
Yann Lafrenière a une excellente réputation. Lui, il a quand même la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Il y avait le dossier très, très délicat, il le possède encore, celui des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Puis ça, c'est rare que ça se déroule aussi bien entre un ministre et les communautés. Puis ça, c'est un acquis qui est somme toute assez important. Fait que je suis surprise, puis pas que ce soit lui qui soit à cet endroit-là.
Qui est responsable de la grande région Québec?
J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, parce que là, on a un ministre délégué aux régions, donc un ministre junior. Est-ce qu'on va tout englober ça là-dedans?
Si on embarque Québec là-dedans, c'est pas un bon signe.
Tu sais, dans la région de Québec, on sait déjà que Geneviève Guilbeault ne sera pas dans le conseil des ministres.
Normal.
Normal.
Elle veut pas rester, fait que c'est juste normal.
Le pire, c'est qu'il y en a qui sont dans, qui vont rester dans le conseil des ministres, qui ne restent pas. Puis je pense entre autres à une Sonia Lebel, mais c'est tellement une pointure majeure avec des dossiers importants. Ça mm-hmm. semble bien se dérouler dans son ministère actuellement. On ne touche pas à ça. Geneviève Guilbeault, c'est une expendable. C'est une sacrifiable. On pouvait vivre sans. Puis son étoile a tellement pâli au courant des derniers mois. Fait que, mais en échange, on ramène un François Bonnardel, mm-hmm. vraisemblablement, qui, lui, avait été délesté par François Legault en le faisant un peu payer pour une portion de sa clique, comme il a été un ministre des Transports à une autre époque.
Tu sais, tantôt, on parlait de manquer son spectacle parce que tu as pris une coupe de verre de trop puis tu n'en as pas profité à plein. Bien, France, non seulement elle n'a pas profité, mais elle l'a manqué. Le show des Tragic Lips.
Oh.
Mon chum et moi, blablabla au restaurant avec des étrangers. Deux bouteilles de vin plus tard, on a manqué le show. Manqué le show. Mon plus grand regret.
Ça doit être tellement poche, là.
Puis, tu sais, Tragic Lip, ben l'histoire est terminée.
Ben
fait
oui.
que t'auras pas de deuxième non. chance, t'auras pas de troisième chance non plus. Juste pour boucler la boucle sur ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, y a-tu d'autres surprises dignes de mention?
On est rendu à Éric Girard qui conserve sans surprise son ministère des Finances, mais on lui ajoute aussi les infrastructures. On peut comprendre, là, les deux peuvent être intimement liés si on veut aller assez rapidement au courant des prochaines semaines.
OK. Normalement, on parle avec quelqu'un qui est à l'assermentation présentement,
ouais.
vers la fin de l'émission. Olivier Primeau qui devrait venir s'asseoir avec nous autres pour jaser de politique. Je sais qu'il y a une affaire au Centre Vidéotron à plugger, mais veut, veut pas, je pense que...
Quand tu te fais inviter par le cabinet de la première ministre, j'imagine que tu as des choses à dire après. Là.
C'est-tu parce que la CAQ veut les influenceurs et les influencés
pas.
Qui suivent Olivier Primeau? Est-ce que la CAQ se dit ils vont nous acheter comme une poutine de cantine ou...
Oui, c'est ça. Va-tu devenir aussi populaire qu'un sous-marin?
Non, je sais pas. Je sais pas. On fait ce qu'on peut, j'imagine, pour essayer de survivre dans l'univers politique. On va parler également cet après-midi à Alex Leblon d'Actualité financière, entre autres, du grand patron de Apple qui décide de se tasser. On va voir l'héritage de Tim Cook. Je sais qu'il veut vous parler aussi de l'histoire de la taxe de bienvenue, première
ouais.
mesure du gouvernement Fréchette.
On va savoir ce que notre acheteurs,
exact.
Ouais.
On va savoir ce que notre chum Leblon en pense. Courte pause. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 418-971-1021 pour nous rejoindre dans le retour.
Gravel.
Merci d'être des nôtres. C'est Gravel dans le retour. On est installé jusqu'à 18h. C'est l'assermentation du nouveau Conseil des ministres qui se poursuit. Si on voulait flatter le gros égo de Bernard Drinville dans le bon sens du poil, ben Bernard peut maintenant se promener en disant « Je ne suis pas un ministre. Je suis un super ministre. »
Ouais, faut
pas... Pa-pa-pa-pam!
Faut pas oublier que le titre super ministre, c'est donné par les médias quand il y a un portefeuille qui compte des rôles d'importance.
Mais ça, c'est une façon de le dire, Véronique.
Oui, j'imagine.
Mais moi, Bernard. Personnellement, je pense que Bernard est tout simplement super.
Ça te donne-tu le goût de chanter une chanson?
Probablement un récital au grand complet.
Ouh.
On a des problèmes de circulation. Audrey?
Oui, déjà, si vous êtes sur la capitale... Non, c'est pas vrai. Si vous êtes sur Henri IV Sud, entre Charest, je vous dirais, et Chemin Sainte-Foy, il y a déjà un ralentissement à prendre en compte. C'est pas rendu au pont, là, c'est vraiment juste dans ce bout-là. Si vous voyez ce qui se passe, 88-971-1021 texto. Pour le reste, jusqu'à maintenant, ça roule.
On regarde l'essentiel de l'actualité. On est mardi, le 21 avril. Véro?
On est en pleine assermentation du nouveau conseil des ministres de la première ministre Christine Fréchette. On n'y est pas allé avec de grandes surprises jusqu'à maintenant, alors qu'on a reconduit plusieurs députés dans leurs fonctions de base, en leur adjoignant des fonctions supplémentaires. On a parlé de Bernard Drinville. Lui, on s'en doutait, les deux s'étaient entendus. Il a choisi de se rallier à Christine Fréchette après sa course à la chefferie qu'il a perdue. Donc, il sera ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, de même que responsable de la stratégie maritime. Sinon, dans ceux qui ont été confirmés jusqu'à maintenant, le premier qui a été présenté, c'est Yann Lafrenière, qui était déjà ministre de la Sécurité publique, qui le conserve d'ailleurs, de même que ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, mais il devient aussi vice-premier ministre, donc bras droit, si on veut, de Christine Fréchette. C'est en partie une surprise, c'est pas un titre qui avait circulé de mémoire pour M. Lafrenière. On a reconduit aussi dans ses fonctions Éric Girard, ministre des Finances, en lui adjoignant les infrastructures, Sonia Lebel, ministre de l'Éducation, demeure leader parlementaire adjoint du gouvernement. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice et maintenant des Affaires constitutionnelles, alors qu'on a un peu changé le titre de responsable des relations canadiennes. Sonia Bélanger, qui avait été nommée à la santé alors que Christian Dubé a quitté le garde, de même que ministre responsable des aînés et des proches aidants. On lui retire ministre responsable des services sociaux. Ça laisse penser que le retour de Lionel Carmon au sein du cabinet va bel et bien se faire.
C'est France-Hélène Duranceau, ça, qui est à TV?
Oui, exactement.
OK, je viens de la voir descendre les marches. Voulez-vous bien me dire comment est-ce que vous faites pour descendre un escalier avec des talons hauts de
on
même?
On y va avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Oui, mais c'est le fun porter des talons hauts.
C'est le fun, pourquoi? Ça a l'air à faire mal. Oui, vous mettez votre équilibre en péril.
Oui, mais effectivement. C'est beau.
S'il avait fallu qu'elle déboule cet escalier-là live à LCN.
Mais
là,
ça a l'air classe, puis ça donne confiance.
Pourquoi?
Parce que quand tu portes des talons, veux pas,
il y a tout
malgré
la
toi,
marche, la posture,
ouais, la posture t'as une posture qui est plus droite, t'as pas le choix.
Okay.
Ça donne vraiment une confiance supérieure, pour vrai. Quand tu portes des talons, on dirait que tu te sens comme plus grounded, tu te sens plus là.
Pourtant,
tu
es plus loin du sol, donc moins grounded techniquement.
Oui, mais non, il faut que tu travailles plus ton équilibre, fait que tu vas avoir
les belles jambes, un beau fessier.
Ben, le déhanchement, moi j'ai remarqué au fil des années, vous savez ce que c'est, le
c'est pas vrai pour tout le monde.
Non, c'est pas vrai pour tout le monde. Ça donne une twist.
Non, il y en a qui sont pas capables de marcher avec.
Ouais, ben là, si tu marches tout croche puis tes talons tombent. Si tu marches en canard, c'est pas ça. Là.
Mettons que tu sais marcher avec, effectivement, qu'il y a un petit déhanchement naturel.
De plus, oui.
Non, ça donne, je te dis, ça donne quelque chose.
Mais moi, pour une assermentation live,
c'est audacieux.
Je serais allé avec des Crocs, personnellement.
Ah oui, mais il y a bien plus de chances que tu t'enferges d'un Crocs.
Impossible.
Mais voyons, Denis.
Impossible. Là, je suis grounded. Non, t'es groundé avec mes Crocs. Je sais pas ce que ça donne à mon déhanchement.
Ouais, mais dans un escalier, là, surtout l'escalier comme ils sont là, actuellement, là. Et mon Dieu, suffit que le pied te galoche un peu puis tu te retrouves à te péter à margoulette dans les marches du bas.
En tout cas, j'aurais détonné avec mes Crocs, je pense.
Bon.
Ouais. Ben, t'as fait
c'est laid, hein, ce salon-là, en passant.
Ah, beau.
Ah ouais, tu trouves ça beau? Je sais pas, je trouve ça... Le tapis est laid, le décor est laid. Ça fait France, je trouve.
C'est le tapis le problème. Parce que c'est pas si pire. Le reste, c'est épuré quand même. Là.
Ouais.
Il est pas sûr.
Non.
C'est blanc et bois pâle, là.
En tout cas. C'est
toi, t'es plus traditionnel, hein?
Ben, je trouve ça ultra traditionnel.
Ah, ça?
Ouais.
T'aurais fait quoi, toi? T'aurais mis des néons?
Ben, non.
Du côté noir et blanc?
Non, c'est parce qu'il y a quelque chose. Moi, j'aime les trucs qui nous montrent un certain historique dans l'Assemblée nationale. Ça, je trouve que ça fait... je sais pas, là, ça fait grega, là. Ça fait stucco, là. J'aime pas ça.
Ah, ouais.
Ah, je trouve ça vraiment cheap. La table, en plus, je sais pas. On fait...
La table, elle détonne.
On fait Banana République, là.
Ah, oh, non.
Oui.
Le bouquet de fleurs fait mortuaire un peu.
Ben, c'est ça que je te dis. On dirait que...
Je pense que j'aime mieux ça que de parler des ministres.
On dirait un salon funéraire. Bon, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Ouais. Il manque rien qu'un cercueil.
C'est pas fou, une urne, là.
Oui. Roger Brula, t'aurais eu plus rapport là
que
des vivants.
Genre les salons funéraires un peu modernes.
Oui. Non, tu mets...
On vous offre les services de visioconférence pour vos proches qui sont à l'extérieur.
Tu gardes cette table-là pour signer le livre, là.
Oh,
puis à côté, tu mets deux gros cierges, puis tu mets le cercueil, puis là, on a quelque chose, là. Ouais.
Hey, là, je suis brisée.
Ben, c'est une place où j'imagine.
Je ne vois que ça, où les carrières vont pour mourir.
Ben, la CAQ expose, là, présentement. Là, ben, c'est peut-être ça qui arrive.
Oh.
C'est pas. Ben, là, si on regarde les sondages, ils sont complètement balayés de la carte. Fait que c'est peut-être ça, finalement, le look funéraire, je viens de comprendre. Véro, les autres nouvelles ou peut-être complétées avec le cabinet, là, s'il y a des choses qu'on a apprises qui sont dignes d'intérêt?
Dans ceux que je ne vous avais pas mentionnés, c'est Mathieu Lacombe, mais il garde les mêmes affaires. Là. Il est encore ministre de la Culture et des Communications. Mais là, il y aura de nouveaux visages. Il y a des gens qui ne seront plus là. Des gens qui avaient l'intention de ne pas se représenter, qu'on a demandé de reconsidérer et qui sont maintenant des sacrifiables. Ce que la CAQ vise à faire, c'est de donner un peu plus de place à soit des députés qui étaient des ministres délégués, donc des ministres juniors, ou encore à des députés qui n'avaient pas eu la chance d'être ministrables encore et qui ont l'intention de se représenter à la prochaine élection.
Jean-François Roberge, il mesure combien? 7 pieds 9?
Il est grand. Hein?
Tabarnouche! C'est rare qu'on les voit de plein pied, là, mais... Il aurait pu être à la lutte à la fin de semaine, je pense.
Lui, il a perdu du galon parce que là, il est responsable de la francophonie canadienne.
En tout cas, je ne sais pas s'il a perdu du galon, mais ça prend un Christy de galon pour le mesurer au complet.
C'est plus lui qui va avoir l'immigration, la rumeur voulant que ce soit François Bonnardel qui ait ce ministère. C'est aussi lui qui est ministre responsable de la laïcité encore et toujours. Fait que là, on va continuer à suivre ça au fur et à mesure. Là. Sinon, dans les autres nouvelles, puis on y reviendra, là, parce que ce qui sera intéressant de voir, c'est ceux qui vont annoncer par la suite qu'ils ne se représentent pas à l'automne, parce qu'il y aurait donc bien aimé ça, avoir une voiture pour les prochaines semaines. Fait que ça va continuer à brasser de ce côté-là. Je vous rappelle qu'on reçoit quelqu'un qui assiste actuellement sur place à la cérémonie d'assermentation un petit peu plus tard cet après-midi. La CAQ qui invite Olivier Primeau à assister à ça. Son nom avait circulé au moment de la course à la chefferie. Il avait fait sa sortie en disant « Non, je ne le ferai pas, je veux faire mes classes ». Est-ce que la CAQ a vu ça comme étant un cœur à prendre pour une future candidature politique? Il y a beaucoup de tentatives d'aller intéresser une nouvelle génération à la politique. On l'a vu pas plus tard que la semaine passée, avec un Farnel Morissette qui se présente dans Tachereau, qui est un vulgarisateur d'actualité, oui, sur les ondes de boulevard, mais qui l'est particulièrement sur les médias sociaux, où il est franchement très, très, très suivi.
En même temps, le pitch de vente de la CAQ, de dire « Viens-t'en triper sur un bateau qui coule », la seule personne assez folle pour accepter ce genre de pari-là que je connais, c'est toi, Véronique.
Il y a ça a bien marché.
Une vingtaine d'années.
T'es-tu en train de faire un parallèle entre moi? Puis...
Oui, je suis comme plus à l'aise. Cocasse.
Non, mais c'est parce que l'offre que je t'avais faite à l'époque, c'était ça. Le CRTC risque de nous fermer dans les prochaines semaines. Fait que je te demande de laisser ta permanence au gouvernement pour faire de la radio alors que t'en as jamais fait. C'était pas mal une proposition de la CAQ pour venir gouverner un été. Là.
Donc, partisan de la CAQ, il y a de l'espoir.
C'est ça, t'as
fait. C'est un message d'espoir que Denis vous envoie.
Voilà.
Tout est possible. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait une sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui avec, en lien avec les sondages, qui confirme ce que tout le monde savait déjà. Oui, ça va bien pour le PQ dans les sondages. Ils ont perdu des plumes dans les derniers mois parce qu'on veut vraiment faire un référendum à tout prix, mais que ça irait vraiment mieux pour le PQ s'ils disaient qu'ils ne feraient pas un référendum dans un premier mandat. Ce serait la différence entre un gouvernement péquiste minoritaire et un gouvernement péquiste majoritaire. Malgré tout, Paul Saint-Pierre Plamondon maintient qu'il va tenir sa promesse d'un référendum d'ici 4 ans s'il est élu premier ministre à l'automne prochain. Puis d'un autre côté, il est conséquent dans ce qu'il dit, mais il reste à voir si c'est quelque chose qui pourrait se réaliser.
C'est un discours qui peut s'ajuster jusqu'à l'automne. Désolé de ne pas trop y croire. On a joué dans ce film-là souvent avec le Parti québécois. Mais s'il garde cette stratégie-là, c'est intéressant parce que c'est rare les politiciens qui décident de rester conséquents avec eux-mêmes et ce qu'ils nous disent. Est-ce que ça peut finir par rapporter en bout de ligne? Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui. Encore une fois, je vais me mettre dans le camp des cyniques. Si c'est la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, il vient d'ouvrir la porte de l'Assemblée nationale et son trône à M. Milliard.
Voilà, c'est confirmé. François Bonnardel qui fait son grand retour dans le Conseil des ministres alors qu'il sera ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. C'est une décision stratégique de la part de Christine Fréchette pour son nouveau cabinet. François Bonnardel, qui est un vieux de la vieille, avait été élu en 2007 sous la bannière adéquiste.
Lui, il s'en va-tu?
Il n'y a pas rien confirmé. Audrey, je ne sais pas si tu es capable de me faire une recherche vite, absolument, vite, mais je pense que François Bonnardel n'avait pas fermé la porte à se représenter à l'automne dernier. Je me demande même s'il n'avait pas confirmé. François Bonnardel, qui a été, dès le moment où la CAQ avait pris le pouvoir, a été ministre, a été un fidèle, un bon proche du côté de François Legault. Mais à l'automne dernier, quand on a fait un remaniement...
Il a indiqué son intention se représenter.
Voilà. Fait qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Un gars qui a choisi de se représenter à l'automne prochain malgré la faiblesse dans les sondages. Je pense que c'est un député qui est apprécié de ses électeurs. S'il y a des sièges qui peuvent être sauvés du côté de la CAQ, je pense que François Bonnardel peut en faire partie. D'aller chercher le dernier adéquiste, entre guillemets, qui était un parti qui était un petit peu plus à droite économiquement que ce qui est devenu la CAQ pendant ses mandats à la tête de la province. Aller chercher un gars que... C'est rare que la population réagit quand quelqu'un perd un siège de ministre. Puis, désolé à Maïté Blanchette-Vézina, là, mais ça a beaucoup plus choqué les gens que François Bonnardel n'ait plus de ministère. Puis, tu sais, je comprends qu'on le fait parce qu'il a été ministre des Transports, parce qu'il y a eu sa clique, puis tout ça.
À vitesse à laquelle est devenue une transfuge, je pense que ça a donné raison à sa démotion. Là, je referme la parenthèse.
Puis, je pense que François Bonnardel aura été un peu téflon pour tout ce qui est du dossier Saclic. Donc, ce sera intéressant de voir comment tout ça sera accueilli. Il sera aussi leader parlementaire, fait que c'est de belles fonctions qu'on donne à François Bonnardel. Puis c'est peut-être une manière de... T'sais, on dit beaucoup qu'actuellement, on a l'impression qu'on voit l'ombre de François Legault en arrière de Christine Fréchette dans à peu près tous ses discours, ses mouvements et ses décisions. Ça, c'est peut-être une manière de trancher peut-être avec l'administration précédente. Il y a aussi du côté du fédéral, Mark Carney qui a dévoilé son nouveau comité sur les relations économiques Canada-États-Unis. Ça, c'est une trolle de monde. On avait nommé ça même auparavant, là, qui vont servir de conseillers pour aider le Canada dans ses prises de position pour la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Jean Charest a toujours un siège là, l'ancien premier ministre du Québec, qui avait été très vocal par rapport aux négociations au courant de la dernière année. Mais là, on va chercher vraiment des gens de tous les horizons. J'ai fait quasiment le saut en voyant que Erin O'Toole, qui est un ancien chef du Parti conservateur, qui faisait partie des gens qui ont été nommés à ce moment-là. On est allé chercher des observateurs, des analystes, mais beaucoup de gens des industries qui peuvent être touchées par des tarifs ou pour qui c'est très important ce qui va se négocier au courant des prochaines semaines et des prochains mois. C'est le 27 avril prochain qu'aura lieu cette première rencontre-là. Je te dirais que ça fait pas mal le tour à ce moment-ci.
Il est 3h moins quart, donc l'assermentation du nouveau Conseil des ministres qui se poursuit. Ça va nous permettre de faire un beau grand résumé de tout ça dans les prochaines minutes, quoique pour l'essentiel, vous êtes déjà au courant depuis hier soir et ce matin. Des grands mouvements ou du grand manque de mouvement, dépendamment de votre perspective. On fait une courte pause, on revient, c'est Gravel dans le retour. On est sous le soleil à 4 degrés. 418-971-1021.
Pour joindre l'équipe.
Pendant que Samuel Poulain est confirmé ministre des Affaires municipales en remplacement de Geneviève Guilbeault, peut-être vous mentionner qu'il commence timidement à faire beau pour vrai, là, au-delà du soleil. Le maximum prévu pour la journée est dépassé. On a 6 degrés présentement à Québec. Triple hourra. Je ne sais pas si votre soirée de ce soir est organisée en fonction du match entre le Canadien et le Lightning, mais on était très nombreux à entendre Renaud Lavoie poser les bonnes questions pendant le match numéro 1 entre Tampa et Montréal. Les codes d'écoute sont sortis. 1,8 million de téléspectateurs pour le match 1 des séries éliminatoires du CH. C'est énorme, là.
C'est des très, très, très bons chiffres.
Ça, ça veut dire que là, t'es plus juste sur l'amateur de sport. Tu sais, la différence entre un événement, puis Audrey, t'étais probablement le meilleur exemple autour de nous autres en fin de semaine, là. Toi, t'es devenue une fan du Canadien pour de vrai.
Là.
Comme bien du monde, puis c'est bien correct. Quand quelque chose est hot, le monde attire le monde.
Ouais.
Fait que 1,8 million, c'est énorme.
Les codes d'écoute standard, là, ça va osciller entre 500 000, 700 000, 800 000 peut-être quand il y a un buzz.
Ouais.
1,8 million, c'est, là, beaucoup. C'est de très, très, très gros chiffres.
Hey, je trouve ça drôle en tabarnouche, cette histoire-là. Puis ça dure depuis un certain temps déjà. Vous souvenez-vous de Alex Jones et d'InfoWars?
Ah, oui. C'est une de mes nouvelles préférées, ça.
Alex Jones était un type très controversé aux États-Unis, essentiellement parce qu'il disait n'importe quoi. Puis il vendait n'importe quelle cochonnerie aux plus crédules de l'univers pour réussir à faire fortune. Alex Jones, c'est le gars qui disait que